Les nuits de France Culture, première nuit spéciale Léo Mallet, il y en aura deux. Depuis le début de la nuit, nous avons pu rencontrer Cédric Perolini, auteur de Léo Mallet, Mauvais Sujet, Nestor Burma passe aux aveux, publié aux éditions Latinoir. Puis, suivre l'émission de Pierre Véry, Faits divers, diffusée en 1957 sur la chaîne parisienne, émission qui proposait une fiction signée Léo Mallet et Ralph Messac, contredanse pour maître chanteur. Puis, nous avons pu entendre Léo Mallet lui-même au micro d'Hubert Juin en 1976, puis Colique de plomb, fiction de Léo Mallet, adaptée par Roger Richard pour les Maîtres du Mystère en 1960 sur France 2 régionale. Et enfin, à l'instant, cette émission de Noël Simsolo consacrée à Nestor Burma en personne. Bonsoir Emmanuel Moineau.
Bonsoir Philippe Carmé.
Alors, Nestor Burma, vous, Emmanuel Moineau, vous le connaissez bien et vous faites mieux que bien le connaître puisque vous entretenez sa flamme, sa célébrité. Et vous êtes scénariste et dessinateur d'un album qui vient de paraître chez Casterman, Nestor Burma contre CQFD. Et c'est à ce titre que vous êtes dans ce studio et au cœur de cette première nuit spéciale, Léo Mallet. Alors lorsque vous quitterez, je vais vous donner le programme de la suite, Emmanuel Moineau. Lorsque vous quitterez ce studio, nous enchaînerons avec Gros plan sur le mort, une dramatique diffusée également dans Les Maîtres du Mystère en 1961 sur France 2 régionale. C'est l'intrigue et l'enquête que vous connaissez peut-être mieux sous le titre Gros plan sur le Maccabée. Alors Maccabée est mort, c'est à peu près pareil, mais enfin en tout cas il avait réécrit ce roman à quelques dizaines d'années d'intervalle, je crois. En tout cas, c'est dans cette aventure que l'on apprend comment s'est créée l'agence
Fiatlux.
Fiatlux. Et puis, la première nuit spéciale Léo Mallet, elle s'achèvera par la suite des entretiens donc accordés en 1976 par le père de Nestor Burma à Hubert Juin. Alors, avant de raconter, sans trop en dire, Nestor Burma contre CQFD, qui vient donc de paraître chez Casterman, vous n'allez pas échapper, Emmanuel Moineau, vous en doutez, à la question attendue, aux questions attendues. Comment, quand, par qui, pourquoi, peut-être pas, mais enfin, et avec quel bonheur de lecture, j'imagine, j'espère, vous avez découvert Léo Mallet.
J'ai découvert Léo Mallet comme beaucoup de lecteurs de bande dessinée au travers de la première adaptation qu'on avait fait Jacques Tardy. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de plaisir à animer Nestor Burma parce que donc j'ai lu Brouillard au pont de Tolbiac dans À suivre, quand c'est paru dans À suivre, ça devait être en 81-82 par là, si je ne m'abuse. Et dans la foulée, comme je suis un lecteur de romans policiers d'une façon générale, et j'étais un peu dans une période où j'avais pas d'auteur fétiche à me mettre sous la dent. Et Léo Mallet tombait à pic. Et ce qui tombait encore plus à pic, c'est que à la suite de cette adaptation, les éditions du Fleuve Noir ont ressorti petit à petit tous les nouveaux mystères de Paris, puis quelques-uns des autres romans qui étaient encore manquants à l'appel.
Et chez Bouquin aussi, hein, l'intégrale.
Mais ça, c'est beaucoup plus tard. Moi, je les ai achetés donc un par un, avec de magnifiques couvertures représentant des jeunes femmes fort dévêtues, qui auraient certainement plu à Léo Mallet. Qui, d'un point de vue graphique, était moins satisfaisant pour moi, mais l'essentiel était que le texte était à l'intérieur et que je les ai tous lus avec avidité, voire relus avec avidité, et j'en ai fait une sorte d'école de désinvolture dans l'écriture. Voilà.
C'est-à-dire la désinvolture de qui? De Léo Mallet ou de Nestor Burma?
Le ton qu'avait adopté Léo Mallet dans les romans, Nestor Burma, est assez désinvolte. Et c'est une chose qui me plaisait beaucoup. J'étais encore un tout jeune homme, hein, 21-22 ans, et ça me convenait parfaitement. Donc, parmi les plus réussis, il m'est arrivé, je ne sais plus lequel, mais je sais qu'il y en a un, où arrivé à la dernière page, je l'ai recommencé immédiatement à la première.
Ça parlait de quoi? On va essayer de trouver quel était cet album.
Je ne sais plus. Ah non, si je savais de quoi, ce qu'il y avait à l'intérieur, je pourrais vous dire le titre. Je me rappelle juste de ce sentiment arrivé à la fin du roman où j'étais tellement content d'être à l'intérieur que j'avais envie d'y retourner immédiatement.
Alors, vous parlez de désinvolture, ce qui ne veut pas dire désinvolture avec le lecteur, parce que lecteur, on lui en donne pour son argent, sa curiosité, le fait qu'il va prendre quelques heures à lire. C'est très bien écrit, déjà, Léo Mallet. Enfin, très bien écrit pour ce genre-là.
Oui. Non, évidemment, c'était pas la désinvolture d'écrivain de Léo Malek que j'évoquais. Disons que sa désinvolture est sans doute venue plus tard, au moment où il a cessé d'écrire.
Alors vous-même, Emmanuel Moineau, votre univers en bande dessinée, en tout cas à l'extérieur, pour votre vie, je n'en sais rien, mais votre univers, il est assez noir quand même.
Oui.
Donc, je sais pas, citer les titres de L'Enfer du jour à Suite française, en passant dans le désordre par le temps des bombes, Qu'elle crève la charogne, etc., c'est pas à l'eau de rose.
Non, effectivement, comme je disais, moi j'ai toujours été un lecteur de romans policiers, en partant des bluettes d'Enid Blyton quand j'étais enfant.
Au Club des Cinq.
Le Club des Cinq, jusqu'à ce que mon père me fasse découvrir Dashiell Hammett quand j'étais adolescent et que par la suite j'émigre vers Jim Thompson. Donc j'ai un univers de référence qui est assez noir et qui est peut-être un peu plus porté même sur le hard-boiled, sur le roman comportementaliste que Léo Malek. Mais ça, c'est venu plus tard. Ces choix-là sont venus plus tard. Ce qui m'a fait aussi aimer chez les auteurs français, Jean-Patrick Manchette, par exemple.
Alors, vous avez lu, Emmanuel Moineau, donc les Nouveaux Mystères de Paris, on s'en doute. Vous en avez adapté. On va en parler dans un instant. Mais vous avez lu aussi la Trilogie Noire.
J'ai lu la Trilogie Noire.
Et ça vous paraît comment, alors?
Il y en a un que j'aime énormément, qui est le premier que j'ai lu d'ailleurs, Le soleil n'est pas pour nous, qui d'ailleurs présente des points de correspondance très nets avec Brouillard au pont de Tolbiac. On y retrouve le foyer végétalien,
la prison,
l'évocation de la prison, et je me dis que le personnage central du Soleil n'est pas pour nous est très proche d'un Nestor Burma jeune. Je ne sais pas s'il serait concevable de l'adapter sous cette forme en bande dessinée, mais c'est une idée qui m'a parfois effleuré. Parce que vraiment, étant donné que Léo Malek s'est inspiré de sa propre jeunesse dans les deux cas, ce serait vraiment pas difficile d'en faire un Nestor Burma, jeunesse de Nestor Burma.
Et on est également dans le 13e arrondissement.
Oui,
la cité Jeanne d'Arc. Terrible.
Oui. Voilà. Après, j'étais moins emballé par les deux autres, notamment effectivement celui qui est C'est la vie est dégueulasse, dont l'intrigue se rapproche de la bande à Bono, c'est
voilà,
ça.
Oui,
c'est, celui-là est un roman d'action qui est bien mené, mais qui n'a pas la même résonance émotionnelle.
Oui, c'est les illégalistes. Enfin, en tout cas, c'est des petits malfrats qui jouent à prendre de l'argent pour les illégalistes.
C'est une lecture de l'illégalisme qui me convient assez peu. Personnellement, j'ai donc fait, comme vous l'évoquiez, Le temps des bombes. Mais Le temps des bombes évoque les illégalistes de la fin du 19e, la période des attentats à la bombe par les anarchistes à Paris. Et disons que la récupération individuelle et le choix de l'action directe me paraissent des thématiques plus riches que les gangsters à idées.
Oui, d'ailleurs, c'est peut-être celui qui a le plus vieilli dans cette trilogie, trilogie noire, La vie est dégueulasse. Pierre Goldman, Vieux fou, L'homme qui assassinait sa vie, c'est aussi des textes et des dessins, enfin voilà, un monde, en tout cas noir,
oui.
Emmanuel Moineau.
Oui.
Et comme ça, vous alternez le Léo Malek désinvolte et puis vous allez dans les profondeurs un peu plus.
Oui, j'essaye aussi dans mon dernier ouvrage, notamment l'original, de conserver un ton, notamment dans les dialogues, un ton qui permette à une lecture un peu plus légère, mais avec une thématique. Une thématique qui reste sérieuse, une thématique avec un arrière-plan politique et avec des choses dramatiques qui se passent. Ça m'est arrivé de faire des bouquins entièrement légers et raisonnablement optimistes, mais c'est, pour moi, c'est une parenthèse. C'est une parenthèse très agréable à faire, mais une parenthèse. Donc là, dans l'original, je crois qu'on retrouve je vais pas m'étendre là-dessus, toute la nuit, parce qu'on n'est pas là pour ça. Mais Je me suis servi de la maîtrise du médium acquise avec toutes ces années, et notamment avec l'adaptation de Nestor Burma, pour faire un récit d'action qui est du fond et qui est aussi un attrait au niveau de l'humour dans les dialogues et de la vivacité des réparties et ce genre de choses.
Alors vous l'avez dit, Emmanuel Moineau, c'est Jacques Tardy qui a adapté le premier Les aventures de Nestor Burma, enfin en tout cas du Léo Malais, puisqu'il y a eu donc Boyard Pontolbiac, 120 rue de la Gare, et c'est à partir évidemment de son univers graphique, c'est écrit en toutes lettres sur les couvertures Casterman, Léo Malais Moineau, d'après les personnages de Tardy ou d'après l'univers graphique de Tardy, oui. Donc que vous avez repris, vous reprenez aussi en alternance avec Nicolas Barral, ce monde noir. Est-ce que vous partagez, Nicolas Barral et vous, et puis aussi Tardy, parce qu'il en fait un de temps en temps, quand même, tous les 15 ans, vous partagez les aventures de Nestor Burma ?
C'est tacite. Il n'y a pas de. À part Jacques Tardy qui s'est réservé un titre en particulier, et la dernière fois où j'ai parlé avec Nicolas Barral, où il m'a dit écoute, celui-là, si tu pouvais éviter de le prendre, moi, il m'intéresse. En dehors de ça, non, il n'y a pas de répartition officielle. Chacun fait son choix. J'ai décidé pour celui qui sort là ces jours-ci,
Nestor
Burma contre CQFD, j'ai décidé de repartir en arrière dans la chronologie de Nestor Burma et de revenir à l'occupation. Puisque CQFD est le deuxième roman qu'a écrit Léo Malais, juste après 120 rue de la Gare.
Enfin, le roman avec Nestor Burma.
Oui, le deuxième Burma qu'il a écrit, juste après 120 rue de la Gare. Chronologiquement, il se situe quelques mois après 120 rue de la Gare, même s'il a été écrit en 1945, après la Libération.
Et il est paru en 1945, il a dû l'écrire pendant la guerre, mais bon, ça a pris un peu plus de temps pour le faire paraître.
Oui, je ne sais pas.
Ouais, En tout cas, là, vous, Emmanuel Moineau, la première aventure que vous avez choisi d'adapter, scénario et dessin, d'après un roman de Léo Malais, et d'après les aventures de Nestor Burma, c'est La nuit de Saint-Germain-des-Prés. C'est un roman qui était paru sous un autre titre.
Oui. Il était paru sous le titre Le sapin pousse dans les caves, ce qui est un titre qui aurait certainement moins parlé au public d'aujourd'hui. J'ai donc préféré garder le titre de l'adaptation cinématographique qui avait eu avec Michel Galabru.
Bob Swain, le réalisateur.
Et qui était plus parlante immédiatement. C'est d'ailleurs le titre qui avait été conservé pour l'édition que j'avais de ce roman.
Et pourquoi vous avez choisi, vous, le 6e arrondissement ?
J'ai choisi celui-là pour une correspondance de thème avec un livre que je m'apprêtais à faire moi-même. Et c'est souvent comme ça que je me suis dirigé vers tel ou tel Nestor Burma. Il y avait un milieu littéraire qui était décrit dans La nuit de Saint-Germain-des-Prés, Le sapin pousse dans les caves, et je m'apprêtais à faire un livre qui s'est appelé plus tard Pourquoi les baleines bleues viennent-elles s'échouer sur nos rivages, et qui avait le même type de milieu comme ancrage. En ce qui concerne CQFD, je venais de sortir au moment où j'ai décidé de le faire de l'adaptation de Suite française d'Irène Némirovski qui se passe pendant l'Exode. Donc l'idée de me tourner vers un roman qui se passe pendant l'occupation était assez logique finalement.
Alors quand le roman La nuit de Saint-Germain-des-Prés est sorti chez Robert Laffont en 1955, ça a été l'occasion d'une petite fête. Alors germano-pratine peut-être pas parce que finalement ça se passait à l'Écluse, c'est quai des Grands Augustins, ce n'est pas vraiment Saint-Germain-des-Prés, mais enfin on est toujours dans le 6e arrondissement. Et à l'occasion de cette petite fête, eh bien, la radio était présente, bien entendu. Et le journaliste Pierre Lerouzic rendait compte aux auditeurs de l'émission Rendez-vous à 5h sur Paris Inter. C'était donc le 24 juin 1955. C'est une archive que vous devez écouter, Emmanuel Moineau, puisque c'est ce roman que vous avez adapté en tout premier pour Casterman.
19h, quai des Grands Augustins. Devant ce lieu où souffle l'esprit qui s'intitule l'Écluse, le café de l'Écluse, où tant de fois l'on vous a amené avec la ferveur que vous connaissez, devant ce café de l'Écluse, on trouve Léo Noël, et Léo Mallet. Deux Léo, vous allez me dire, ça fait beaucoup. Mais on va vous expliquer pourquoi. Parce que Léo Mallet a eu une idée absolument géniale il y a quelque temps déjà. Il s'est dit, il y a 20 arrondissements dans Paris, j'ai une plume fébrile, il faut que j'écrive un certain nombre de romans, et cursive, comme il dit lui-même, parce qu'il est là, parce que l'auteur est là, il est venu. Vous savez, ça ne se produit pas toujours. Et on organise des cocktails comme ça, de signatures, puis l'auteur ne vient pas, mais il est là. Il s'est dit, il y a 20 arrondissements dans Paris, alors je vais faire un livre, un roman policier de préférence, n'est-ce pas ? C'est chez Lafon que vous éditez ça, sur un quartier de Paris. Ça, c'est une... Vous auriez pu choisir les départements, il y en avait 89 en 1789, il y en a 92 maintenant ou 93, mais vous avez choisi les arrondissements de Paris.
Oui, oui, la province, je la ferai plus tard, lorsque les villes, les villes voudront, les syndicats d'initiative de certaines villes voudront faire connaître au public ce qui se passe chez elles en matière de crimes, escroquerie, assassinats et autres choses.
Et alors aujourd'hui, vous signez frénétiquement d'ailleurs un livre extraordinaire qui s'intitule « Le sapin pousse dans les caves ».
Oui,
et
non pas le
pousser. Et les caves vous ont poussé jusque dans la rue d'ailleurs, puisque c'est pour ça que nous sommes sur le quai des Grands Augustins, incapables de rentrer dans ce café de l'écluse qui nous est définitivement interdit.
Ben, tout à l'heure, on essaiera d'y entrer pour boire un coup quand même.
Alors, faites une petite déclaration là, vous savez.
Alors, quel genre de déclaration ?
Je ne sais pas, je suis fier et heureux.
Quelque chose de définitif.
Ben, je suis fier et heureux d'avoir décroché la timbale. Ah non, je croyais avoir fait un tour de.
Non, vous vous trompez de page là.
Ah oui, c'est pas ça, oui.
Oui, c'est pas ça.
C'est pas ton discours de esprit là.
Non, là, alors, une petite déclaration spontanée là.
Petite déclaration spontanée ?
Oui, c'est la page en dessous.
Eh bien, je suis.
Un petit aveu spontané.
Je suis maintenant au sixième arrondissement, quatrième bouquin. J'en ai encore.
Parce que vous avez sauté deux arrondissements.
J'ai sauté, oui, parce que j'ai sauté le quatrième et le cinquième que je ferai plus tard. Actuellement, je travaille sur le quatorzième arrondissement. Et lorsque j'aurai terminé mes 20 arrondissements, je ferai le 21e, puisqu'il paraît qu'il va y en avoir un.
Oui, mais dites-moi, alors qu'est-ce que c'est que ce roman ? Parce que je vois le sapin pousse dans les
caves. Ça se passe à Saint-Germain-des-Prés, qui est un quartier que je connais très bien. Et le sapin qui pousse dans les caves, c'est le sapin dont on fait les cercueils, car il y a beaucoup de morts, évidemment. Comme c'est un roman policier, ça s'impose. Dans celui-là, je crois qu'il y a 3 ou 4 morts. Pas plus. Enfin, c'est un truc très moyen.
C'est raisonnable, c'est raisonnable.
Et alors, est-ce par affinité de prénom que vous êtes retrouvés tous les deux, le Léo Mallet, le
non,
Léo
pas,
Noël ?
Non, pas exactement, non. Léo Mallet est un vieux copain, c'est pourquoi j'ai songé à rassembler une quantité de copains, car Léo Mallet a beaucoup de copains, c'est un charmant copain, et j'ai demandé à quelques copains, entre autres, Annette Poivre, qui est
vous
là.
Vous êtes un copain, d'ailleurs. Nous sommes entre copains.
Un copain de toujours, de Léo Mallet.
N'ayons pas peur de dire le mot,
oui.
Nous sommes entre copains.
Entre copains. J'ai demandé à Léo Mallet, à Michel Seldo, à Auguste, dessinateur, que vous voyez là, à Boris Vian, Yves Degnaud, Francis Lemarque, Jacques Pochemort, enfin bref, une quantité de copains qui sont venus soutenir l'effort de notre ami Léo Mallet.
Ainsi qu'un certain nombre de voitures que vous entendez qui n'ont pas été invitées, mais ceci est une autre histoire.
Ça, bon. C'est pour le fond, c'est pour le fond sonore.
Alors, il paraît qu'il y a une complainte.
Un type avec une gueule de pickpocket.
Il y a une complainte du cave qui pousse dans les sapins.
Ah, du sapin. Du sapin qui pousse dans les caves.
Non.
Oui, que nous allons chanter tout à l'heure avec.
C'est la complainte de Nestor Burma.
Ah, la complainte de Nestor
Burma. Le détective de choc bien connu.
Exactement, oui, alors nous allons la chanter avec notre ami Léo Mallet. Léo Mallet
dira...
Non, Léo Mallet dira les couplets, il fera le rôle du bonimenteur et je chanterai quelques couplets.
Vous m'avez fait peur.
Quelques couplets de la complainte. Mais il chante très bien, déjà, vu que c'est un ancien chansonnier.
Vous voulez que je vous la chante ?
Oui, chantez-la, allez.
Ah ben voilà, la complète de Nestor Burma commence comme ça.
Alors vous savez, non, attendez, on réunit la foule. Mesdames, messieurs, vous allez entendre...
Approchez,
vous allez entendre Léo Mallet dans la complainte...
De Nestor Burma, approchez, messieurs, dames, et voici le premier couplet. Écoutez les aventures, en détail ou bien en bloc, du détective de choc, Nestor Murmain qui assure, on va se promener à travers pour entrucher tous ces mystères.
Bravo, bravo.
Alors, c'est extrait de l'émission Rendez-vous à 5h. Pierre Le Rouzic s'entretenait à l'écluse avec Léo Mallet et Léo Noël lors de la parution donc du sapin pousse dans les caves, devenu la nuit de Saint-Germain-des-Prés. L'aventure dans le 6e arrondissement de Paris, c'était le 24 juin 1955 sur Paris Inter. Emmanuel Moineau, vous connaissiez évidemment la voix de Léo Mallet.
Et non, en fait.
Non,
j'avais jamais eu l'occasion de l'entendre. Je l'ai lu, y compris dans La Vache enragée. Mais non, je l'avais jamais entendu. J'ai été surpris parce qu'il disait justement dans La Vache enragée qu'il avait perdu très naturellement son accent de Montpellier sans avoir besoin de se forcer. Et j'ai été surpris d'entendre que parfois cet accent ressortait un tout petit peu.
Alors comment s'est fait donc l'adaptation de cette première adaptation de la Nuit de Saint-Germain-des-Prés ?
Ouh, elle s'est fait avec le recul, elle s'est fait dans la douleur parce que je n'avais encore jamais adapté quoi que ce soit. Mais c'est sans doute pas la question que vous me posiez.
Si, pourquoi pas.
En fait, en reprenant les choses à la base, ça s'est fait parce que Jacques Tardy n'était pas en mesure de produire un essor burma en temps et en heure, et que plutôt que de le laisser partir à n'importe qui, il a préféré contrôler l'affaire. C'est donc moi qui en ai été hérité. J'ai donc accepté avec joie dans un premier temps et ensuite réalisé l'étendue du problème. Et j'ai adapté, en ne sachant pas comment on adaptait, ce qui m'a probablement évité de paniquer. Mais au bout du compte, j'étais beaucoup moins à l'aise évidemment que maintenant, et j'étais un peu je me suis senti contraint, surtout sur la fin, parce que j'avais pas réalisé à quel point les explications d'intrigue de Léo Mallet étaient longues dans les romans. Quand on les lit, ça, évidemment, on a tendance à compresser le temps, ce qu'il devait d'ailleurs faire lui aussi en écrivant, mais quand on le transcrit en bande dessinée, nécessairement ce temps-là il s'étend sur des pages et des pages, et ça peut singulièrement alourdir le ton.
Oui, mais alors ça, vous nous faites laisser entendre, Emmanuel Moineau, qu'il y avait quand même la statue du commandeur. Il y avait peut-être Tardy d'un côté, Léo Mallet qui
de
est
l'autre,
mort, mais
oui.
De l'autre, Nestor Burma au milieu avec son.
Voilà, je voulais décevoir aucun des trois, et
ni décevoir l'éditeur.
Ni décevoir l'éditeur, ce qui était à la limite secondaire de mon point de vue, mais moins du sien, bizarrement. Donc, il y a eu une sorte de combat des chefs au-dessus de ma tête, effectivement, et sans. Essentiellement dans ma tête d'ailleurs, parce que Jacques Tardy, en ce qui le concerne, n'est pas un garçon autoritaire. Donc c'était un combat qui se menait sans lui, avec lui dans ma tête, mais sans lui dans les faits.
Il vous a pas reproché telle case, page
28. Il m'a donné des directives très aimablement.
Alors, par exemple.
Tout le long. C'est-à-dire que quand j'avais fini des pages, je les lui apportais. Il me disait ce qui, selon lui, ne convenait pas. Mais il m'a jamais mis un Colt 45 sur la tempe en me disant ça, tu vas le redessiner.
Ou un revolver qui est peut-être comment, il y a toujours la confusion entre revolver et pistolet.
Pistolet, hein, le pistolet de Nestor Burma est un Colt 45.
Il y a évidemment le côté, il faut faire du Tardy sans faire du Tardy, il faut faire du Moineau et du Léo Mallet. Enfin bref, on comprend très bien, mais en tout cas, l'éditeur a dû être content et les lecteurs aussi, puisqu'il y a eu quand même, après la nuit de Saint-Germain-des-Prés, il y a eu Le Soleil naît derrière le Louvre, L'Envahissant cadavre de la Plaine Monceau, ça c'est le 17e arrondissement. Le Soleil naît derrière le Louvre, c'est évidemment le premier arrondissement. Et puis il y a donc aujourd'hui CQFD qui n'est pas un arrondissement de Paris, enfin qui se passe dans quelques arrondissements de Paris, mais là n'est pas le problème, c'est pas un des nouveaux mystères de Paris. Donc il y a eu cette suite éditoriale, et tant mieux pour nous. Mais simplement, par exemple, ce que vous disiez Tardy, est-ce que ça a dû vous aider peut-être pour voilà, dès qu'on entend quelqu'un qui vous donne des conseils ou qui parle de son propre travail et de sa propre création, on est enrichi, ne serait-ce que par réaction parfois. Pourquoi mettre toujours, et tant mieux, Nestor Burma au premier plan comme ça ? Enfin, il est très souvent, il n'est pas toujours, mais il est souvent au premier plan. Il y a des personnages secondaires qui sont derrière lui, qui... Il a un regard totalement énigmatique, il ne juge pas, mais il nous laisse éventuellement, on peut comprendre que ce qui est dit derrière lui est faux.
C'est un vieux truc de composition qu'on retrouve sur beaucoup de bandes dessinées au cours des 30 dernières années, et par souci de classicisme, je m'y suis conformé jusqu'ici, et vous pouvez sans doute constater, puisque vous l'avez entre les mains, que la couverture du CQFD n'est pas composée de cette façon-là. Il y a un autre personnage qui est au premier plan et Nestor est à l'arrière-plan.
Oui, parce que lui, il se cache. C'est pendant une filature, on est dans le
métro. J'ai voulu rompre de plusieurs façons avec les Nestor Burma que j'avais fait jusqu'ici, en choisissant pas un nouveau mystère de Paris, en me l'appropriant sans doute un peu plus, parce que comme sans doute écrit un peu dans l'urgence, et par un jeune romancier, il y avait quelques échardes dans l'intrigue que j'ai poli d'un coup de rabot discret. Et cette façon de ne pas choisir un décor d'extérieur, mais une station de métro, et de ne pas mettre Nestor Burma en avant.
Mais une jeune femme.
Mais un personnage féminin, c'était aussi une façon de rompre un peu et de m'approprier plus la série que je ne l'avais fait au cours des trois premiers. Et je crois que de toute façon, y compris dans ma façon de raconter l'histoire et dans la liberté du dessin, j'ai beaucoup gagné depuis que j'avais fait une pause sur Nestor Burma et que celui-ci est certainement le plus personnel des quatre.
Alors en tout cas, vous avez choisi un roman qui en effet nous fait on quitte Paris, on quitte les arrondissements. Voilà, on n'est plus dans tel arrondissement, dans le lieu clos arrondissement, mais on peut aller en banlieue. Ça arrive aussi dans les Nouveaux Mystères de Paris, hein, mais c'est une banlieue qui est proche évidemment de l'arrondissement dont il est question. Et puis on a quitté en effet les années 50 pour une période beaucoup plus tragique, puisqu'on est en 1942, le début se passe pendant une alarme, il y a d'abord un avion qui passe, et c'est important, et puis après
Le point de départ de l'intrigue est lié à l'occupation, puisque Nestor Burma n'a pas pu fumer depuis plusieurs jours, qu'il est en manque de tabac et qu'il va se procurer du gris au noir dans un petit bistrot d'ici les Moulineaux, et c'est comme ça qu'il croise l'intrigue, disons. On va s'en tenir là. On va dire que l'intrigue vient à lui au cours de ses pérégrinations.
L'intrigue le bouscule même.
L'intrigue le bouscule. Et l'intrigue a un fort joli minois.
Alors, ça va être... Évidemment, il y a le tragique de la période, mais ça, c'est pas très important, finalement. Enfin bon, il y a des Allemands en arrière-plan. C'est un décor. Alors que dans 120 rue de la Gare, c'était plus qu'un décor, bien entendu. Mais la tragédie, elle est... Alors, on ne raconte pas l'intrigue, on ne raconte pas la fin, donc ça ne va pas être très pratique. Mais enfin, Emmanuel Moineau va quand même en dire donner quelques idées comme ça de l'histoire. Ce Nestor Burma, c'est un excellent détective, mais c'est quelqu'un qui se trompe aussi.
Oui.
Parler de la désinvolture, il a aussi une désinvolture avec lui qui le pousse parfois dans des raisonnements qui sont mauvais.
Eh bien, il y a des... En l'occurrence, je pense qu'il se trompe parce qu'il a envie de se tromper. Il n'a pas envie de... Il se doute de la vérité, mais il n'a pas envie de la savoir parce que Nestor Burma est amoureux. Et il est attiré par ce joli minois et ça le déconcentre, ça le détourne des déductions qu'une partie de son cerveau est déjà en train de faire.
Il y a des détectives dont on suit les aventures, Emmanuel Moineau, mais sans savoir vraiment ce qu'ils pensent. C'est-à-dire qu'on les voit, Hercule Poirot, par exemple, on sait rarement ce qu'ils pensent.
On sait le moins possible ce qu'ils pensent. C'est ça qui permet de conserver l'effet de surprise au moment du dénouement. Le parti choisi par Léo Mallet, effectivement, dans ses QFD, c'est qu'on sait toujours ce que pense Nestor Burma, mais qu'il se trompe, ce qui permet au lecteur de se tromper avec lui.
Oui, c'est une intrigue, une détection qui est en permanente évolution.
Enfin, oui,
avec des pistes. Et
ça n'est pas Sherlock Holmes qui peut deviner si le coupable est boiteux en examinant ses cendres de cigarettes, non, c'est sûr.
Alors, fatalement, Emmanuel Moineau, vous qui dit adaptation, vous avez parlé de Rabot tout à l'heure. On pourrait parler de Ciseaux aussi, parce qu'il faut que ça tienne en combien, en 80 pages.
70
pages, ouais. Une histoire qui peut faire 200 pages. Enfin, donc c'est pas très facile. Il faut raccourcir. Il faut que l'intrigue soit compréhensible, c'est un minimum. Il faut qu'elle soit intrigante, qui pour une intrigue est assez normal aussi, logique. Mais vous montrez aussi certaines choses qui ne sont pas décrites. Par exemple, dans La Nuit de Saint-Germain-des-Prés, à un moment donné, Nestor Burma arrive dans une chambre d'un suspect. Possible, il entre comme il veut, lui. Enfin, il montre une carte tricolore, parce que c'est le polo de Paris, c'est je ne sais quoi, à une concierge. Et puis voilà, il entre. Il se fait passer pour un policier. Et il voit que dans cette chambre, il y a trois romans policiers déglingués qui goûtent un repos bien mérité sur le siège d'une chaise boiteuse. Mais il ne dit pas quels sont ces trois romans policiers.
Non.
Vous, évidemment, il faut les montrer. Ça ne peut pas être flou. Alors, vous montrez...
Un roman d'Eugène Moineau.
Voilà, bah tiens. Moineau, c'est un rapport avec vous ?
Aucun, c'est pas la même orthographe. Oui. L'orthographe avec laquelle je signe est la véritable orthographe de mon nom.
Débrouillez-vous avec la morte, édition du Scorpion.
Oui, j'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça en chinant, j'ai trouvé ce roman en chinant, alors que j'étais en train de réaliser l'album, donc je n'ai pas pu résister. C'est un fort mauvais roman, j'ai essayé de le lire, je me suis ennuyé d'un bout à l'autre.
Je suis sûr que ce roman a été lu par la suite, a été cherché, parce que vous le mettez en avant, comme ça. On voit, alors, très très difficile à comprendre, mais enfin on comprend un petit peu, Sullivan quand même, donc on a entendu tout à l'heure Léo Noël, enfin le journaliste parlait de la présence de Boris Vian à l'Écluse, et donc Sullivan, c'est lui, et qui c'était un livre, on comprend que c'est sans doute les morts,
Tous la même peau. Effectivement, et c'est d'ailleurs c'est la partie de l'œuvre de Boris Vian que je préfère, ça ne vous surprendra pas, puisque je vous ai dit que j'étais un amateur de policiers, ce sont les trois Sullivan, effectivement.
Alors, Emmanuel Moineau, donc on revient à l'idée d'adapter Néstor Burma et Léo Mallet, et avant tout Léo Mallet, quelle liberté vous vous accordez, la plus grande liberté que vous puissiez vous accorder par rapport non pas à l'intrigue, mais par rapport à ce qu'on pourrait appeler l'idéologie de Léo Mallet. Enfin, c'est dans La Nuit de Saint-Germain-des-Prés, c'est évident. Il y a des personnages qui sont vraiment presque insultés dans le roman. Et là, même Hélène Châtelain, qui est quand même la secrétaire assez raciste de Néstor Burma, elle emploie d'autres expressions que celles qu'elle emploie dans le roman. Mais alors, pour CQFD, qu'avez-vous choisi de...
Dans CQFD, le problème ne se pose pas tellement. En fait, maintenant, après avoir adapté, ma quatrième adaptation d'un Néstor Burma, j'ai entre-temps adapté un Jean Vautrin et le roman d'Irène Némirovski, Suite française, Tempête en juin. J'ai adopté une position très claire, c'est-à-dire que je conserve l'esprit, mais pas la lettre. Donc, l'ambiance qui me plaisait à la lecture de ce roman, je la conserve. Les dialogues sont entièrement réécrits. Et après avoir fait ce qu'on appelle un premier traitement, c'est-à-dire un résumé en quelques feuillets de l'histoire, je n'ouvre plus le roman. Donc, si une scène, je décris une scène telle que je m'en souviens, et pas forcément telle qu'elle est décrite dans le roman. Et si je trouve intéressant que Néstor Burma et sa nouvelle compagne aillent se promener dans le jardin du Palais Royal, ce qui n'est pas décrit dans le roman, je le fais. Voilà, tous les coups sont permis, en fait. Du moment qu'on reste dans le cadre de l'intrigue et dans l'état d'esprit dans lequel le roman a été écrit, tous les coups sont permis.
Alors CQFD, c'est une sorte de personnage, enfin en tout cas c'est une revue, mais c'est aussi un autre Emmanuel, c'est pas vous, hein, Emmanuel Moineau, c'est Emmanuel Chabrot.
Oui.
Alors vous pouvez nous en parler, parce qu'il apparaît quand même presque dans les premières pages et on ne dira pas ce qui lui arrive, mais enfin puisque c'est Néstor Burma contre CQFD, il faut imaginer que ce CQFD a son importance.
Oui, c'est un personnage qui est d'une certaine façon récurrent chez Léo Mallet, parce que Léo Mallet a lui-même travaillé pour l'éditeur d'une feuille de chantage dont il dit qu'il était totalement illettré. Et il est représenté dans un nouveau Mystère de Paris, mais je ne sais plus lequel. Je me demande si c'est pas...
Boulevard Haussmann, peut-être.
Oui, il fait chanter, qui a été adapté par Nicolas Barral. Et donc là, c'est sa première apparition, puisque c'est le deuxième Néstor Burma. C'est donc un maître chanteur qui se sert d'une feuille de chou dans laquelle il prétend pouvoir révéler des vérités plus ou moins gênantes. Et il s'en sert pour extorquer de l'argent au bon peuple.
Au bon peuple riche,
de préférence. Effectivement, c'est pas un Robin des Bois.
Non, il cherche pas vraiment à vendre sa presse,
il
cherche plutôt.
Non,
à vendre
plus, plus il peut en vider les pages, et plus ça l'arrange.
Oui. Mettre au pilon, c'est mieux, voilà, ça rapporte plus.
Voilà. Il préfère effectivement faire un bon numéro qui part au pilon qu'un succulent numéro qui arriverait jusqu'au kiosque.
Il n'est pas tellement décrit dans le roman. Enfin, dans mon souvenir, il n'est pas.
On le sent côteleux, déplaisant, et il n'est pas décrit physiquement. Mallet décrit assez rarement physiquement les personnages, à part les personnages féminins.
Il a un sourire odieux.
Il est odieux.
Le vôtre, en tout cas.
Oui, oui. Il faut qu'on le prenne en grippe immédiatement. C'est le problème de la bande dessinée. On a assez peu de pages à consacrer à chaque scène, comme vous l'avez dit. On est obligé de condenser. Donc, il faut aussi que les caractères des personnages soient évidents dès le début. Ce qui est aussi, de toute façon, ma tendance naturelle, même si je avais voulu être écrivain, ce qui n'est pas le cas. Comme j'ai une attitude de comportementaliste, j'ai envie que le lecteur comprenne sans que j'ai besoin de lui dire les choses. Voilà. J'ai pas envie d'avoir un text-off de Nestor Burma qui dirait l'homme pénétra dans mon bureau, il avait l'air fort antipathique. C'est toujours un peu lourd. Donc je préfère que ça saute aux yeux.
Ça a son charme aussi dans les Black Mortimer. On continue à avoir ces
Ah oui, c'est très bien. On peut les sauter ces passages-là. C'est très utile.
Vous voulez lire avec plaisir.
Personnellement, j'ai toujours dans les meilleurs Jacobs, j'ai toujours sauté les gros pavés qui disaient exactement la même chose que l'image, et ça me convenait parfaitement en tant que jeune lecteur. En tout cas.
Alors il y a un autre horrible personnage, c'est un commissaire, parce que Farrou, le futur commissaire Farrou n'est qu'inspecteur là, évidemment, en 42. On ne sait pas trop ce qu'il fait, mais en tout cas il est dans la police française en 1942. Mais alors le commissaire, où avez-vous trouvé dans votre imagination noire, j'imagine, Emmanuel Moineau, mais ce personnage monstrueux? Secondaire, hein, il a pas une grande importance.
Physiquement, il est monstrueux parce que pour la même raison, parce que dans le roman, il est clairement contre Nestor Burma et que du coup, je trouvais amusant d'en faire un personnage démesuré. Comme Farrou est déjà un personnage assez corpulent et assez typique du flic français tel que l'a représenté Tardy en de nombreuses occasions, j'avais besoin là de quelque chose d'encore un peu plus exagéré. Je me souviens, moi, toujours dans la période de mes 20 ans, je m'étais retrouvé dans la queue à mon agence bancaire un jour, derrière un homme, donc déjà de dos, à la coupe de cheveux et au veston qu'il portait, je m'étais dit, c'est sûrement un flic. Et au moment où il a montré ses papiers au banquier, j'ai vu qu'effectivement c'était une carte de police.
Peut-être une fausse, vous savez, Nestor Burma.
Non, en l'occurrence c'était une vraie. Il y avait un commissariat juste à côté. Et donc j'ai essayé de penser à cet homme-là qui était bien plus petit que ça, mais qui était plus petit que moi, mais dans la coupe en brosse avec la nuque rasée, le repli de graisse par-dessus le col de chemise, etc. C'est à ça que j'ai pensé en faisant mon commissaire.
La jeune fille est plus sympathique à regarder.
Oui.
Même si, voilà, c'est des faux, certainement. Mais enfin bon, il y a Hélène Châtelet. Oui, il y a la secrétaire aussi. Vous l'aimez, cette secrétaire, vous, Emmanuel?
Eh bien, j'avais du mal. Je ne savais pas trop comment la diriger dans les trois premiers que j'ai faits. Et là, je la sens plus espiègle. Donc, je la laisse faire.
Alors que c'est 10 ans plus tôt.
Ouais.
Oui.
Donc, elle était peut-être, elle était peut-être encore un peu plus fraîche, ouais, à ce moment-là.
Alors Emmanuel Moineau, on a dit que donc Nestor Burma contre CQFD venait de paraître chez Casterman. Les autres tomes par vous dessinés et scénarisés, on va les reciter. La nuit de Saint-Germain-des-Prés, donc ça c'est le 6e arrondissement. Le soleil naît derrière le Louvre, c'est le 1er arrondissement. On voit les halles de Paris telles qu'elles étaient jusqu'en 1969 et quelques. L'envahissant cadavre de la plaine Monceau, c'est donc le 17e arrondissement. Casterman vous a dit, Emmanuel Moineau, il faut nous faire un Léo Mallet, un Nestor Burma tous les ans, quel est le prochain, ou tous les deux ans?
Alors, j'ai pas encore pris de décision exactement sur ce que serait j'hésite entre plusieurs encore pour le prochain. Le rythme de parution est effectivement prévu un tous les ans, mais pas moi à chaque fois. Ce sera en alternance avec Nicolas Barral. Et pour le prochain que je ferai, j'hésite entre deux, en fait, essentiellement, entre L'homme au sang bleu et le cinquième procédé qui se passe dans le sud. Tous les deux, il y a des passages à Marseille aussi dans le cinquième procédé. Et le cinquième procédé a l'avantage de faire un pont en fait entre l'avant-guerre et l'après-guerre, puisqu'on approche vraiment de la libération à la fin du cinquième procédé. Donc si je me souviens bien, mais je l'ai parlé depuis longtemps, le Maussangbleu se passe juste après la libération, non?
Alors écoutez, on va relire. Il y a quelques tomes en bouquin, et puis tous les romans sont à lire de Nestor Burma, enfin les aventures de Nestor Burma. En tout cas, Nestor Burma contre CQFD, ça vient de sortir chez Casterman. Merci Emmanuel Moineau. La première nuit, Léo Mallet continue avec un maître du mystère, puis avec la suite des entretiens que Léo Mallet avait accordé à Hubert Juin en 1976. Et ainsi se terminera cette première nuit spéciale Léo Mallet. Mais la semaine prochaine, il y aura une deuxième nuit, bien entendu. Vous serez à l'écoute, Emmanuel Moineau, et là, vous pourrez écouter la voix vraiment de Léo Mallet en interview, qui n'est pas la même que quand il se met à chanter la complainte de Nestor Burma.
Certainement. Je suis un homme de la nuit.